Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end, eh bien, pas de nouvelles licornes, mais plutôt un zoom sur le retour en grâce du Made in France aux yeux de nombreux industriels français. Eh bien, c'est le cas de la Fenêtrière, qui produit depuis près de 40 ans des menuiseries en PVC, en aluminium et en bois. Une entreprise familiale dirigée par Catherine Guerniou, qui est avec nous en plateau pour nous parler non seulement du produire en France, mais aussi des thématiques RSE qui s'impose de plus en plus dans le secteur du bâtiment. Nous reviendrons également sur les ambitions industrielles de Opium, ambitions industrielles et boursières. Opium qui veut lancer en 2025 la première berline française de luxe 100% hydrogène. On réécoutera son jeune patron Olivier Lombard. Et puis la France a tout pour réussir en matière de fiction. Nous réécouterons le producteur Pascal Breton qui croit en la consolidation du secteur pour produire des fictions de qualité. Et puis à la fin de l'émission, Olivier Marchetti nous expliquera pourquoi ces très vastes studios de tournage Provence Studio, situé à Martigues, séduisent autant les producteurs étrangers. Il y a deux semaines, sur ce même plateau, je recevais Fabien Expert, l'un des dirigeants de Wondercraft, cette entreprise qui développe des exosquelettes pour aider certaines personnes en fauteuil à pouvoir en partie remarcher. Et à la fin de l'interview, eh bien, il nous avait laissé entendre qu'une prochaine levée de fonds allait avoir lieu. Eh bien, c'est fait. 40 millions d'euros levés donc par Wondercraft pour poursuivre le développement de l'exosquelette Atalante, déjà présent dans plusieurs établissements de santé en Europe et également aux États-Unis. Un des prochains axes de croissance sera le marché des particuliers pour justement utiliser l'exosquelette à domicile. Mathieu Maslin, l'un des cofondateurs de Wondercraft, était l'invité de Good Morning Business il y a quelques jours.
Aujourd'hui, on en a une quinzaine qui sont en utilisation en France, aux États-Unis, dans d'autres pays européens. Et c'est vrai que c'est des exosquelettes, c'est quelque chose qui nous rend très fiers, qui sont utilisés au quotidien en routine clinique. Ouais. Pour la rééducation d'un très très large nombre de personnes, notamment parce que nos algos font que ça peut être utilisé par pratiquement n'importe qui.
Ça s'adapte à la morphologie, c'est ce que vous voulez dire ?
Ça s'adapte à la morphologie, mais aussi au type de handicap. Oui. Notamment parce que quand on pense exosquelette, on pense très souvent aux personnes paraplégiques ou tétraplégiques. Nos exosquelettes, ils vont bien bien au-delà de ça et ils permettent aussi de traiter n'importe quel type de d'hémiplégie. Donc quand vous faites un AVC, vous avez besoin de réapprendre à marcher, vous avez toute une partie de votre corps que vous pouvez ne pas sentir. C'est ce qu'on appelle l'héminégligence, le fait que vous vous rendez pas compte qu'une partie de votre corps existe. Et ben l'exosquelette va être très important pour ça parce qu'il va permettre de faire prendre conscience de cette partie du corps que vous ne sentez plus. Et ça va être aussi intéressant pour des scléroses en plaques, pour énormément de pathologies de la locomotion.
Pour être très clair que vos exosquelettes, ils ont beaucoup été utilisés, notamment par les cliniques, dans les centres de rééducation, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette levée de fonds que vous nous annoncez de 40 millions d'euros, l'idée c'est de pouvoir remplacer un certain nombre de fauteuils roulants par les exosquelettes de Wondercraft, par exemple, et donc que chacun puisse accéder à la propriété de son propre exosquelette.
Alors c'est vraiment un de nos objectifs à terme. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, dans le sens où on ne va pas dire à quelqu'un « on va te remplacer ton fauteuil par un exo ». Ouais. Ça, c'est quelque chose dans lequel il faut se projeter dans l'avenir. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on réalise un gros tour de table avec un fonds américain, avec le soutien de l'État à travers BPI France, avec le soutien de tous les assureurs mutualistes, les complémentaires santé, à travers un vrai bloc très cohérent d'investisseurs. Et un des objectifs, c'est de développer cette version personnelle que les utilisateurs pourront avoir chez eux à domicile et au moins utiliser dans une partie des tâches de la vie quotidienne.
À quelle échéance ?
Alors nous, notre objectif, c'est 2-3 ans. C'est vraiment ça, notre vision de quand est-ce qu'on veut rentrer au domicile chez chacun.
Encore une question. C'est intéressant de voir dans votre nouveau tour de table, là, que de 40 millions d'euros, la présence, et vous l'avez dit, d'assureurs ou des sociétés de prévoyance. Est-ce que ce sont des investisseurs ou ce sont des clients ?
C'est des partenaires, en fait.
Ouais.
C'est des partenaires, c'est la passerelle qui va nous permettre de diffuser notre solution au plus grand nombre. Je reviens à la question tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 15 exosquelettes déployés. Notre objectif, très vite sur les premières utilisations d'exoperso, c'est la centaine, c'est plutôt, on parle en plusieurs centaines d'unités. Oui. Et assez rapidement, sur un déploiement commercial, ça va être des milliers d'unités.
Et puis, autre jeune entreprise pleine d'ambition, c'est Opium. Opium, dont on suit le parcours depuis de très nombreuses années sur BFM Business. Ce sont un projet de berlines de luxe développé par Olivier Lombard, des berlines qui fonctionneront à l'hydrogène. Alors, ce jeune Olivier Lombard n'a que 30 ans et cet ancien pilote automobile ambitionne de commercialiser sa Machina, c'est le nom de sa voiture, à l'horizon 2025. Il y aurait déjà plusieurs centaines de précommandes. Mais pour atteindre ses objectifs, eh bien, Opium vient d'effectuer le transfert de sa cotation à Euronext Paris, du marché Access vers le marché Growth. Dans un instant, donc, on va écouter Olivier Lombard, interrogé lundi dernier par Christophe Jacubizine. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur le jeune patron d'Opium, un résumé signé Thomas Schnell.
Il en est convaincu, l'hydrogène est la technologie d'avenir. Olivier Lombard, plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans, a présenté le premier exemplaire de sa Machina, berline de luxe noire aux allures de voiture de sport, accueillie avec enthousiasme. L'entreprise revendique 1000 précommandes. Le jeune patron trentenaire s'est allié avec PSA, Plastic Omnium ou encore Saint-Gobain pour développer sa technologie et atteindre ses objectifs. 1000 km d'autonomie pour un temps de recharge de 3 minutes. Doté d'un capital de 7 millions d'euros, Opium a réussi le transfert de la cotation de cette titre sur le marché Euronext Growth Paris, un tremplin adapté aux besoins des startups qui ambitionnent de grosses opérations financières, de quoi rythmer la feuille de route de l'entreprise qui espère désormais changer de dimension. Elle compte lever jusqu'à 400 millions d'euros à terme, trouver les usines pour fabriquer les premiers modèles et profiter du développement de l'hydrogène en France.
On est vraiment sur le coup d'après, c'est-à-dire que pour moi, l'électrique, c'est vraiment une transition. Ah oui. Et l'hydrogène, c'est la solution pérenne d'avenir. Pour la mobilité. On dirige les gens vers une solution électrique, mais finalement, il y a beaucoup de contraintes. Et aujourd'hui, l'hydrogène, je vous en ai parlé, par rapport aux performances du véhicule, ou encore une fois, le fait qu'on n'a aucun impact sur la routine des utilisateurs, c'est quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, on recherche quand même la simplicité, et en plus de ça, on recherche un impact environnemental qui soit le plus faible possible. On a une vision extrêmement claire de là où est-ce qu'on veut aller, qui est la commercialisation de la voiture en 2025. Et maintenant, l'élément très important, c'est l'exécution. Comment est-ce qu'on va exécuter la roadmap? Et effectivement, on a commencé avec justement déjà respecter le planning, ce qu'on annonçait. C'est-à-dire, l'année dernière, on annonçait la présentation d'un proto en 2021, en juin.
Vous l'avez fait?
C'est fait. L'annonce de partenariat Saint-Gobain, Plastic Omnium, de forts partenaires industriels qui vont pouvoir nous accompagner, et il y en aura d'autres par la suite. C'est fait. Et maintenant, on a aussi franchi une grosse nouvelle étape qui était ce transfert sur
vendredi, hein.
Euronext Growth, exactement.
Ouais.
Voilà, qui va nous permettre vraiment de pouvoir donner une nouvelle dimension financière à la société et pouvoir accompagner tout le développement. L'idée qu'on a, c'est vraiment d'avoir cette première voiture, ce premier modèle en tant que vitrine technologique par rapport à l'hydrogène, par rapport à tout le savoir-faire d'Opium. Et par la suite, c'est pouvoir avoir plusieurs modèles dans différentes gammes.
Ouais.
Horizon entre maintenant et 2030, et pouvoir justement démocratiser vraiment cette technologie hydrogène.
Voilà donc pour les grandes ambitions d'Olivier Lombard pour sa Machina d'Opium. On dit que les précommandes sont aux alentours de 120 000 euros tout de même, mais c'est un peu le prix également de la transition écologique. Bonjour Catherine Garniou.
Bonjour Jérôme.
Voilà donc, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes à la tête de La Fenêtrière, un atelier de menuiserie indépendant qui a été créé en 1984 par vos parents. Le siège est à Champigny-sur-Marne. Vous produisez des menuiseries en PVC, en aluminium et en bois. Et vous êtes également, on en parlera dans quelques instants, très impliqué dans les thématiques RSE à travers vos missions à la Fédération Française du Bâtiment ainsi qu'au CESE. Mais de tout ça, donc on reparlera dans quelques instants. Mais tout d'abord, et c'est pour cela que j'ai tenu à vous inviter, vous êtes un des symbole, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, qui croient justement aux vertus du Made in France, et ça fait d'ailleurs longtemps que vous y croyez, avant même cette tendance que l'on voit depuis quelques mois ou quelques années.
Oui, tout à fait. En fait, pour nous, ça fait partie de notre ADN, tout simplement, ce Made in France. C'est une évidence, en fait, de travailler avec des matières premières françaises, avec des entreprises hein, qui sont françaises, des partenaires locaux également, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir de l'efficacité dans notre production, d'avoir de la traçabilité, ce qui est important, hein, une sécurité aussi sur nos fabrications. Et puis, c'est c'est agréable également de travailler avec des partenaires locaux. Ça permet aussi d'avoir une dynamique de territoire.
Alors, je vais vous demander de laisser cette caméra parce qu'on va rester en mode conversation. C'est beaucoup plus chaleureux. Parlez-nous, justement, là, du Made in Fenêtre. C'est presque une appellation d'origine contrôlée, si je puis dire, de cette fenêtre française dont vous venez de nous parler et de vos croyances en le Made in France.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, à travers Made in Fenêtre, hein, c'est une marque que l'on a lancée à la fenêtre hier. On a cette volonté de mettre en avant ce qui est responsable, ce qui est vraiment un impact, donc à travers le choix de nos fournisseurs, mais également, si vous voulez, sur l'ADN de notre entreprise. Tous nos salariés sont recrutés localement, donc dans le Val-de-Marne, ça fait partie de nos valeurs. Et également, nous diffusons auprès des professionnels du bâtiment nos menuiseries et également sur l'Île-de-France. Donc vous savez, on parle beaucoup en ce moment du dernier kilomètre.
Absolument.
Et bien justement, nos menuiseries sont fabriquées dans ce dernier kilomètre.
Et vos menuiseries, elles sont forcément un peu, voire beaucoup plus chères. Est-ce que justement cette thématique du prix, prix plus cher pour produire en France, on se rappelle d'un vieux slogan, nos emplettes sont nos emplois. Est-ce que ce prix plus cher, il est accepté de plus en plus par vos clients à vous et in fine par les clients, les utilisateurs qui reçoivent les fenêtres à leur domicile?
Alors, notre prix, en fait, il s'explique déjà par l'origine des produits, comme on était en train de le dire, mais c'est surtout aussi c'est qu'on apporte une rapidité. Aujourd'hui, une menuiserie PVC dans notre atelier est fabriquée sur mesure en 10 jours. Il faut savoir que les gros industriels sont à 6, 7, 8 semaines. Donc finalement, le prix que vous avez en plus, vous le retrouvez très rapidement, puisque vous pouvez continuer votre chantier et de ce fait, terminer même vos chantiers beaucoup plus rapidement que si vous attendez vos menuiseries.
Et pareil pour le service après-vente, c'est un souci, c'est beaucoup plus rapide. En quelques jours, parfois, les pièces détachées sont là, alors que quand ça venait des pays de l'Est ou de Chine, c'était beaucoup plus long. Enfin, c'est
alors,
beaucoup plus long.
Là, effectivement, par exemple, hein, votre vitrage, pour X raisons, casse, eh bien, en 3 jours, 4 jours, votre vitrage, vous l'avez de nouveau. Vous avez un problème avec votre poignée, vous l'avez perdue ou elle est tombée ou vous avez besoin de la changer, eh bien nous en avons en stock. Donc comme vous le dites, effectivement, il n'y a pas cette durée d'attente, vous ne repartez pas dans un cycle de production, vous ne repartez pas dans un cycle d'attente et donc on est beaucoup plus efficace.
Vous parlez du sourcing de vos matériaux, alors on va voir une carte de France, vous êtes vraiment dans de nombreux départements, sur cette carte de France on va voir que vous vous approvisionnez notamment pour ce qui est de la gamme PVC dans le Doubs, la gamme aluminium près de Dijon, le vitrage à Alençon, les vis et les pommelles à Valence dans la Drôme, quincaillerie et volets roulants dans le Haut-Rhin, quincaillerie près d'Armentières également et les panneaux de porte d'entrée dans l'Yonne. Vraiment, donc vous avez opté très clairement pour aller au plus près de l'approvisionnement. Alors, on ne peut pas tout trouver dans le Val-de-Marne, d'où ce côté un peu plus national. Merci. Mais pour vous, ça reste une thématique très importante, le sourcing des matériaux au plus proche également.
Tout à fait. Et puis, d'ailleurs, on va partir dans la labellisation Origine France Garantie parce que justement, on veut mettre en avant cette volonté que l'on a d'acheter français et de valoriser aussi nos beaux savoir-faire à travers nos fournisseurs.
Vous parliez de salariés, donc ils sont recrutés dans le Val-de-Marne. Vous êtes 11 à l'heure actuelle. Est-ce que les perspectives sont en évolution pour les prochains mois?
Oui, mais en fait, on a cette belle chance d'avoir une bonne progression. Et donc, on envisage entre 2 et 3 recrutements pour l'année 2022.
Et quand vous dites une belle progression, c'est le chiffre d'affaires. Quels sont les chiffres à date des 2-3 dernières années?
Oui, alors en 2019, on avait réalisé un chiffre d'affaires d'1,6 million. 2020, hein, l'année confinement, on a été arrêté pendant un mois. Nous avons fait une progression de 27%. On est passé à 1,8 million. Et là, je viens à l'instant, il y a quelques semaines, de clôturer donc 2021, puisque nous, on est sur une année civile. Et nous sommes à 2,2 million. Donc, encore plus 25%. Donc, c'est vraiment une belle réussite pour notre petite structure. Mais cependant, il faut y faire attention, il ne faut pas grandir trop vite, il faut savoir bien se stabiliser et c'est pour ça aussi que j'ai une équipe avec moi, à mes côtés, et on y travaille tous les jours pour justement avoir cette belle progression, mais c'est surtout garder notre service et notre qualité de travail.
Et une équipe que vous bichonnez, j'ai bien compris que les thématiques RSE et même vous parlez, je crois, dans une interview de management participatif, c'est important pour vous en tant que chef d'entreprise d'avoir ce management, j'ai envie de dire, humain, tel que vous le prenez.
C'est une évidence, en fait, ça se calcule même pas. C'est juste un partage quotidien de nos compétences, de nos savoir-faire. Quand on ne connaît pas, eh bien on fait appel à une entreprise extérieure qui nous accompagne. On a des consultants, hein. On s'est lancé dans le lean management, donc on est accompagné. On a la chance dans le bâtiment, hein, d'avoir des OPCO qui sont notre OPCO constructif, qui est très actif et donc qui nous accompagne dans l'évolution aussi de notre entreprise. On a un consultant sur l'évolution de notre dynamique, et donc on n'hésite pas, si vous voulez, à faire appel à d'autres savoirs, à d'autres compétences qui nous accompagnent dans notre progression.
Au-delà de votre entreprise, vous êtes très impliqué dans les thématiques RSE, donc au sein de la Fédération française du bâtiment. Mm-hmm. Vous êtes aussi conseillère environnement au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, depuis 2020. Qu'est-ce que vous y faites ? Quelles sont les actions que vous menez à la fois au CESE et au sein de la Fédération ?
Alors bon, c'est complètement différent. Au niveau de la Fédération française du bâtiment, c'est mon cœur, hein, de métier, puisque je fais partie du bâtiment. Et donc c'est ma famille. En fait, là, on travaille vraiment sur amener la RSE. On a la chance dans le bâtiment d'avoir un métier qui a du sens. Donc déjà, si vous voulez, c'est très propice à la RSE. Et donc, on emmène, hein, le but, hein, c'est d'emmener le maximum d'entreprises, qu'elles soient PME, TPE. Les plus importants ont déjà, hein, des besoins en matière de RSE et puis des devoirs, mais c'est de nous emmener tous vers ce flux, vers cette dynamique qui nous permet justement de valoriser nos métiers.
Mais est-ce qu'elles vous suivent ? Est-ce qu'elles vous suivent ? On se dit que spontanément, le bâtiment et les thématiques RSE, les univers étaient un peu parallèles. Est-ce que les droites sont en train de converger ?
Ah oui, carrément. On a lancé un outil qui s'appelle Bâtisseur Responsable et on en est très très content. On l'a lancé au printemps dernier et on en est déjà à plus de 800 bâtisseurs responsables. Et donc, c'est vraiment une dynamique de fond que l'on constate. Vous me posiez la question sur le CESE. Alors là, c'est complètement différent. Ouais. Là, on est la société civile. Hein, donc, moi, je suis dans le groupe entreprise pour la CPME. Et là, on est vraiment au cœur aussi de l'action sur les sujets environnementaux. Hein, concernant ma commission, nous travaillons en ce moment sur l'acceptabilité des énergies renouvelables. Donc, on est en plein aussi dans le sujet. Et donc, c'est très intéressant de partager les avis, puisque cette société civile est composée de nous tous. Et donc, j'apporte avec mes collègues le regard aussi de l'entreprise, comment l'entreprise doit s'inscrire justement dans toutes ces dynamiques et puis ces changements auxquels nous devons faire.
Il ne reste, Catherine Garnoux, que 30 secondes. Un mot sur ces podcasts. Je crois que vous vous lancez dans les podcasts. Voilà un mode de communication également qu'on n'attendait pas forcément dans une entreprise de menuiserie. Expliquez-nous ce que vous expliquez dans ces podcasts que vous venez de lancer.
Bah, sur le temps de votre parcours de chantier, vous avez comme ça la possibilité d'avoir des informations sur le PVC, sur le bois, sur l'aluminium. Et donc, c'est super sympa de pouvoir se former et en même temps, malheureusement, en région parisienne, de subir les embouteillages.
Voilà. Et on écoute vos conseils sur podcast. Merci beaucoup, Catherine Garnoux, d'avoir été donc l'invitée de notre émission. Vous parliez de podcast, pourquoi pas un livre, puisqu'on va parler culture pour terminer cette émission. Cinéma et série TV dans un instant, mais tout d'abord, qui n'a pas eu un jour ou l'autre l'envie d'écrire un livre ? L'exercice en lui-même est déjà difficile, mais il se complique aussi souvent quand il s'agit de trouver un éditeur. Alors beaucoup optent pour l'auto-édition, mais il y a aussi depuis un peu plus d'un an, Édite et nous, une plateforme de mise en relation entre les écrivains en herbe et le monde de l'édition. Comment ça marche? Combien ça coûte? On écoute les réponses de Valentin Vauchel, le cofondateur d'Édite et nous. Il était l'invité de Frédéric Simotel dans Tech & Co.
En fait, on est des passionnés de tech et de texte. Mmh. Et notre objectif, notre mission, c'est de créer le match entre les textes qui sont présentés par les auteurs et les recherches des éditeurs, qui peuvent être des recherches pour investir sur des nouveaux talents ou simplement renouveler leur catalogue. Donc, on est très contents parce que en quelques mois, on a déjà permis à une dizaine d'auteurs de signer des contrats d'édition. On a aujourd'hui plus de 70 éditeurs partenaires sur Édite et nous. Et en fait, on a un algorithme qui s'appuie sur le contenu renseigné par les auteurs, donc le texte en lui-même, la présentation du texte, les mots-clés et les différents critères qui nous permettent d'adresser ces textes au bon éditeur. Aujourd'hui, on adresse les auteurs de fiction, mais aussi les auteurs de non-fiction, les auteurs en jeunesse. On a un champ qui est très très large et l'objectif, c'est évidemment à l'auteur de travailler. Ensuite, on a à la fois l'algorithme qui permet d'adresser ces manuscrits et on a aussi une équipe éditoriale qui permet d'accompagner les recherches des éditeurs avec des recommandations très personnalisées.
Donc ça, c'est le... Alors, là, je viens de donner l'exemple du côté auteur. Je suis éditeur, qu'est-ce que je vois arriver moi chez moi?
Alors uniquement ce que vous souhaitez publier. En D'accord. fait, vous allez définir également votre ligne éditoriale et c'est comme ça qu'on va créer des matchs. Vous ne recevrez plus les textes qui potentiellement ne vous intéressent pas.
Vous rémunérez comment derrière?
Alors en fait, on a un abonnement qui est destiné aux auteurs et qui leur permet de présenter jusqu'à 10 manuscrits. C'est un abonnement D'accord. qui vaut 9,99€. Ça, c'est l'offre actuelle et on travaille déjà sur une offre beaucoup plus accessible pour pouvoir adresser les auteurs qui n'ont qu'un manuscrit. Généralement, c'est leur vie. Mmh. Et ce manuscrit, on va leur permettre effectivement de le présenter. On va le protéger aussi.
Et ensuite, c'est un lien plus traditionnel, entre guillemets, qui peut
C'est ça, exactement.
Place.
Nous, on est des passeurs finalement. C'est-à-dire qu'on est des dénicheurs de talents. Et derrière, ensuite, c'est l'éditeur qui va vraiment travailler le texte et puis travailler surtout la commercialisation du texte. Il y a toute la chaîne du livre qui se met en place. Et c'est la grande différence avec l'auto-édition, qui est un modèle qui fonctionne bien, mais pour toucher plutôt un cercle restreint, familial et des amis. Mais pour toucher le grand public, c'est beaucoup plus difficile. Et là, il faut un éditeur, il faut un diffuseur, il faut un distributeur, il faut la chaîne du livre.
Là, aujourd'hui, éditez-nous français, mais on va pouvoir avoir un Edit and Us dans d'autres langues, j'imagine. Pas, c'est ou, ça votre...
Ou Edit tout court. Alors déjà, on adresse la francophonie. Donc la francophonie, c'est large.
Oui, c'est vrai.
On a des auteurs belges, on a des auteurs suisses, québécois. L'Afrique aussi, on l'a vu avec le Goncourt chez Philippe Rey, est vraiment un vivier de talents incroyables. Mais après, effectivement, on ne s'interdit pas très rapidement d'investir les pays anglo-saxons.
Et après les livres, la fiction télé, un secteur très porteur en termes d'audience pour les diffuseurs, que ce soit les chaînes historiques ou les plateformes. Mais une fiction, eh bien, ça coûte très cher à produire et comme dans bien d'autres domaines, il faut s'unir, il faut changer d'échelle. Et en début d'année, Pascal Breton, le patron de Fédération Entertainment, était venu nous parler du rapprochement de sa société de production avec une autre société, Robin & Co. Je suis certain que vous avez déjà vu ce nom-là sur des génériques de séries très populaires comme Kaamelott, Caméra Café ou encore Soda. On écoute donc Pascal Breton, venu nous parler donc de son accord avec Jean-Yves Robin, le patron de Robin & Co. C'était dans Good Morning Business au tout début de l'année.
Jean-Yves Robin, c'est l'homme qui a créé une bonne partie de la comédie en France. Kaamelott, tout le monde connaît. Caméra Café, tout le monde connaît. Kev Adams, Ahmed Silla. C'est Jean-Yves qui les a fait naître à partir d'un petit festival de la comédie à Paris, puis des stand-up, et puis des petites séries, surtout sur M6, des petites séries courtes de comédie. Et il a fait émerger des dizaines de grands talents de comédie. Ça, c'est un secteur que je ne connais pas du tout. Et puis, surtout, ils ont des forces de création qui sont, je dirais, complémentaires aux nôtres pour créer de nouvelles séries pour les plateformes. Et bien entendu, c'est le cœur de la guerre à venir. Toutes les plateformes aujourd'hui, à la fois parce qu'elles ont des obligations de production depuis le 1er janvier, donc ça fait pas longtemps, des fortes obligations de production. Il y aura 400 millions d'investis en plus par les plateformes dans les séries cette année, et il y en aura 600 ou 700 millions dans quelques années. Elles ne trouvent pas complètement tous les bons projets. Nous-mêmes, on peine. Moi, j'ai développe 300 ou 400 projets actuellement, mais je peine à trouver tous les projets assez forts pour les plateformes parce que c'est très rare d'avoir des très grands talents comme un Éric Rochant qui fait le Bureau des Légendes. Il n'y en a pas à tous les coins de rue, comme on dit.
Oui, vous faites le Bureau des Légendes en thérapie. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces projets que vous construisez pour la suite? Constance, dans notre oreillette, veut savoir s'il y aura une 6e saison du Bureau des Légendes, mais d'autres projets comme ça, qu'est-ce qui est dans les tuyaux?
Encore de certitude sur le Bureau des Légendes, malheureusement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de nouvelles séries d'espionnage avec les grands talents qui ont créé le Bureau et puis d'autres séries d'espionnage plus internationales, on va dire. Ça, c'est sûr. Le Bureau, on y travaille, c'est un peu plus complexe. En thérapie, ça va, on a fini la 2e saison, donc ça, vous la verrez bientôt. Il va y avoir un très très beau Incendie de Notre-Dame sur Netflix, produit par Julien Madon dans sa société qui s'appelle Cheyenne Fédération. Je prépare un très beau Brigitte Bardot. J'avais, il y a 2 jours, sur France Télé, un très beau Tour du Monde en 80 jours, qui est une énorme série internationale qu'on a vendue à la BBC, à PBS, dans le monde entier. Nous travaillons sur, en gros, une vingtaine de grosses séries françaises et une vingtaine de grosses séries internationales qui seront en cours de tournage cette année et l'année prochaine.
Et pour toutes ces séries télé, même pour certains films, il faut des studios avec des grands espaces. On va donc réécouter Olivier Marchetti. C'est le président de Provence Studio, un site gigantesque de 26 hectares situé à Martigues. C'est juste à côté de Marseille. Les producteurs étrangers raffolent de cet espace et de cet environnement provençal. Olivier Marchetti était notre invité lors de la délocalisation de l'antenne de BFM Business. C'était à Marseille au mois de décembre.
J'étais transporteur logisticien et lorsque nous avons cessé notre activité de transport logisticien, j'ai eu envie de reconvertir ce bâtiment. J'ai fait une étude de marché et un jour, on a eu un tournage EuropaCorp. Luc Besson qui est venu tourner une série. Et en fait, le réalisateur, à un moment, lance un petit peu, mais il faut faire des studios ici.
Ah oui.
J'entends ça, je lance l'étude de marché et puis très rapidement, les professionnels ont adapté le lieu.
Alors on était un peu à Hollywood sur Méditerranée maintenant grâce à vous. Il y a eu beaucoup de tournages dans vos studios tout le temps en fait, des films, des séries.
On a Titane qui a été quand même Palme d'Or cette année au Festival de Cannes qui a été tourné chez nous.
Et Serpent Queen.
Et Serpent Queen,
c'est la consécration hollywoodienne.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est ? Racontez-nous alors Serpent Queen.
Alors Serpent Queen, c'est l'histoire de Catherine de Médicis. C'est une production américaine produite par Lionsgate, Hunger Games.
450 professionnels et acteurs qui ont travaillé ici pendant 6 mois. C'est ça concrètement un tournage.
Exactement, c'est 80 millions de dollars de budget, c'est une énorme série et on a été très heureux de la recevoir.
Alors quel est le business model de studios de cinéma comme les vôtres ? Est-ce que c'est de la location des lieux ? Est-ce que vous proposez aussi des prestations ? Comment ça
Alors,
se passe ?
C'est de la location et du service, c'est-à-dire en fait on est des concierges. On aide vraiment beaucoup les productions qui viennent tourner chez nous. On leur indique un petit peu les lieux de tournée. On essaie aussi de faire un lien avec les institutions pour avoir les autorisations de tournage. Et puis on fait un petit peu de prestations de service.
Paris, c'est pas réellement une concurrence. On voit que Luc Besson vient tourner. Il y a aucun problème là-dessus. Les vrais concurrents, c'est quoi ? C'est Londres ? C'est les pays de l'Est peut-être ?
Plutôt les pays de l'Est. Aujourd'hui, c'est plutôt les pays à faible coût. Sauf qu'aujourd'hui, avec notre crédit d'impôt international, nous redevenons compétitifs. Et surtout, nous avons des techniciens de très haut niveau en France. L'exception culturelle française aidant. Donc aujourd'hui, les productions américaines aiment bien venir ici puisque on a une productivité qui est très forte. Et donc, au final, même si on est un peu plus cher facialement, au final, le devis, on est moins cher.
Et ils se servent des studios uniquement ou l'attrait de la région, évidemment, et des décors naturels compte énormément aussi dans le choix des studios ?
Bien sûr, l'attrait des décors naturels compte beaucoup, la lumière compte beaucoup. On a la même lumière que Los Angeles ici.
Oui.
D'ailleurs, c'est pour ça que Pagnol s'était installé là à une époque. Le cinéma à Marseille, c'est quand même une longue histoire aussi.
Et ça fait vraiment plaisir de citer Marcel Pagnol sur BFM Business. J'ajoute qu'après Marseille, donc au mois de décembre, les prochaines délocalisations, le Tour de France de la reprise de BFM Business, ce sera à Toulouse, les 17 et 18 février, puis à Nantes le 9 mars. Nous, on se retrouve le week-end prochain, tout début du mois de février, pour un tout nouveau numéro de La France a tout pour réussir. D'ici là, bien sûr, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business.
BFM Business, La France a tout pour réussir.